Salut tout le monde et bienvenue à cette nouvelle exploration, Solvar le Béton. On plonge aujourd'hui dans l'économie mondiale.
Ah oui, ça bouge en ce moment.
Exactement. Avec la réélection de Donald Trump et ses politiques America First, on assiste à un virage protectionniste qui crée pas mal de remous.
Oui, on a un moment charnière, beaucoup d'incertitudes, mais aussi des opportunités qui se dessinent.
C'est ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui.
OK.
Accrochez-vous, on va parler de la flambée du Bitcoin suite au retour de Trump. De l'expansion de Marsa à Maroc, et qui modernise les ports africains,
Oui.
et même du Maroc qui envisage de se lancer sur le marché du carbone.
Ce qui est intéressant, c'est de voir l'impact des décisions politiques de Trump aux États-Unis sur la planète entière.
Oui.
Prenons l'exemple du Dow Jones. Il a grimpé en flèche juste après sa réélection, signe que les investisseurs sont optimistes.
Mais est-ce que cet optimisme est vraiment justifié? On sait que les entreprises américaines pourraient profiter des baisses d'impôts et de la déréglementation promise par Trump.
Oui.
Mais qu'en est-il des consommateurs?
C'est là que ça se complique. L'inflation risque d'augmenter à cause des tarifs douaniers imposés par Trump.
Ah oui.
Et la Fed a devoir jongler avec les taux d'intérêt pour éviter une surchute de l'économie.
Et puis il y a le dollar qui se renforce, signe de confiance pour les États-Unis, mais ça a aussi un impact sur les autres pays, n'est-ce pas?
Absolument, un dollar fort, c'est une mauvaise nouvelle pour les pays émergents qui ont souvent des dettes en dollars. Leur fardeau devient plus lourd et ça peut créer des tensions économiques et sociales.
Parlons maintenant du Bitcoin qui a carrément explosé après l'élection de Trump, atteignant plus de 90 000 dollars.
Trump a promis de faire des États-Unis un véritable hub pour les crypto-monnaies et il a même laissé entendre qu'il pourrait remplacer le président de la SEC,
Ah oui?
qui était plutôt strict envers le secteur. Du coup, les investisseurs ont sauté sur l'occasion et on a vu des gains importants, non seulement pour le Bitcoin, mais aussi pour l'Ether et le Dogecoin.
C'est fou de voir à quel point une seule décision politique peut avoir un tel impact sur un marché entier. On dirait que Trump a vraiment le doigt sur le bouton turbo en ce qui concerne les cryptos.
Et pendant que les crypto-monnaies s'envolent, les obligations du Trésor américain, elles sont un peu dans le flou.
Oui.
Le rendement de l'obligation à 10 ans, par exemple, a dépassé les 4,45% le 14 novembre. Ça montre que les investisseurs anticipent des changements importants avec le retour de Trump.
Pour être honnête, le marché obligataire, c'est un peu un mystère pour moi.
Ah!
Tu pourrais m'expliquer comment les politiques de Trump peuvent influencer ces fameux rendements obligataires?
En fait, c'est assez simple, les décisions de Trump sur les dépenses publiques et les impôts ont un impact direct sur les rendements des obligations.
D'accord.
Par exemple, si Trump décide de lancer de grands travaux d'infrastructure, ça va augmenter la dette publique
Oui.
et donc rendre les obligations américaines un peu plus risquées. Du coup, les investisseurs vont exiger un rendement plus élevé pour compenser ce risque.
D'accord. Donc c'est une sorte de jeu d'équilibre entre les politiques de Trump, les taux d'intérêt et les rendements obligataires.
Exactement.
Mais est-ce que ces fluctuations ont des conséquences au-delà des États-Unis?
Bien sûr. Le marché obligataire américain est un indicateur clé de la santé économique mondiale. Quand il y a des mouvements importants, ça se répercute sur les taux d'intérêt et les flux de capitaux dans le monde entier.
D'accord.
C'est pour ça que tout le monde surveille de près ce qui se passe à Washington.
On voit bien que les États-Unis sont au centre du jeu économique mondial, mais comment les autres pays réagissent-ils à ce virage protectionniste de Trump? On imagine que tout le monde n'est pas ravi de voir les États-Unis se replier sur eux-mêmes.
Prenons l'exemple de la Chine face à la menace de sanctions commerciales américaines. La Chine essaye de devenir moins dépendante des États-Unis, elle accélère ses réformes économiques et se tourne vers d'autres partenaires commerciaux.
C'est une stratégie plutôt intelligente. Et l'Allemagne, elle fait quoi?
L'Allemagne, elle regarde du côté de l'Asie et de l'Afrique pour trouver de nouveaux débouchés. Elle ne veut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, surtout si les relations transatlantiques se détériorent.
On voit que le protectionnisme américain force les autres pays à revoir leur stratégie. C'est un peu comme une partie d'échecs géopolitiques où chaque pays essaie d'anticiper les coups de l'adversaire. Mais parlons maintenant du Maroc, qui s'intéresse de près au marché du carbone.
Oui.
C'est un sujet qui me passionne, car il touche à la fois à l'économie et à l'environnement.
Le Maroc est un champion de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique. Le pays s'est fixé un objectif ambitieux, réduire ses émissions de CO2 de 42% d'ici 2030.
Oui.
Et pour y arriver, il voit dans le marché du carbone une opportunité stratégique.
C'est vrai que le marché du carbone a le vent en poupe en ce moment.
Oui.
Mais concrètement, comment ça marche et comment le Maroc pourrait en profiter?
Imaginez un système où on fixe un plafond d'émissions de CO2 pour certaines industries. Les entreprises qui polluent moins que leur quota peuvent vendre leur crédit carbone à celles qui dépassent le plafond. C'est un système d'incitation économique pour encourager les entreprises à réduire leur impact environnemental.
Donc en gros, on crée un marché où la pollution a un prix. C'est assez ingénieux finalement. Mais est-ce qu'il existe des exemples concrets de marché du carbone qui fonctionnent bien?
Bien sûr. Le système d'échange de quotas d'émissions de l'Union européenne, SETU-UE, existe depuis 2005 et il a permis de réduire significativement les émissions de CO2 dans l'industrie européenne.
Et le Maroc, il est prêt à se lancer dans cette aventure Combabé. Quelles sont les initiatives concrètes qu'il a prises pour intégrer ce marché?
La Caisse de dépôt et de gestion, CDG, et Casablanca Financing Authority, CFCA, ont récemment signé un accord pour créer un marché volontaire du carbone régional.
D'accord.
C'est une initiative prometteuse qui s'inscrit dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat.
C'est une excellente nouvelle. On dirait que le Maroc prend les choses en main et se positionne comme un leader en matière de lutte contre le changement climatique. Mais est-ce que la transition vers un marché du carbone est sans risquer?
Il y a bien sûr des défis à relever. Le Maroc va devoir mettre en place une infrastructure réglementaire et technique solide pour surveiller, vérifier et rapporter les émissions de CO2 de manière transparente. C'est un travail de longue haleine qui demande beaucoup de rigueur.
Donc ce n'est pas une solution miracle, il faut vraiment s'organiser pour que ça fonctionne. Y a-t-il d'autres obstacles potentiels?
Oui, la transition vers un marché du carbone peut être coûteuse pour certaines industries, notamment celles qui sont très polluantes, comme l'industrie lourde.
Oui.
Il faut trouver des solutions pour aider ces entreprises à s'adapter et à réduire leurs émissions sans mettre en péril leur compétitivité.
C'est un vrai casse-tête, car il faut concilier les impératifs économiques avec les enjeux environnementaux.
Exactement.
Mais j'imagine que pour que ce marché du carbone soit vraiment efficace, il faut absolument réinvestir les revenus générés par la vente des crédits carbone dans des projets durables.
Oui.
C'est essentiel pour maximiser l'impact positif sur l'environnement et pour créer un cercle vertueux.
Parlons maintenant de l'expansion de Marsa Maroc en Afrique. On a l'impression que le Maroc joue un rôle de plus en plus important sur le continent et pas seulement sur le plan économique.
C'est vrai. Marsa Maroc, qui est le leader marocain de la gestion portuaire, s'est lancé dans un projet ambitieux au Libéria. L'objectif est de moderniser les ports de Monrovia et de Bouchanan pour en faire des hubs logistiques performants.
C'est une initiative qui pourrait vraiment dynamiser le commerce en Afrique de l'Ouest, mais comment Marsa Maroc compte-t-elle s'y prendre concrètement?
Marsa Maroc a signé un protocole d'accord avec l'autorité portuaire nationale du Libéria. Le projet prévoit la construction d'un terminal polyvalent capable de gérer une variété de marchandises.
D'accord.
Cela va considérablement augmenter la capacité de gestion de frais du Libéria et lui permettre de jouer un rôle plus important dans le commerce régional.
C'est un projet impressionnant. Est-ce que Marsa Maroc a déjà mené des projets similaires en Afrique?
Oui, au Bénin, Marsa Maroc gère déjà les principaux terminaux du port de Cotonou, qui est devenu un point névralgique des échanges en Afrique de l'Ouest.
Le Maroc devient donc un acteur incontournable de la modernisation portuaire en Afrique. C'est une belle réussite et ça montre que le pays a une vraie expertise à partager.
Tout à fait, l'expertise de Marsa Maroc est précieuse pour les pays africains qui cherchent à développer leur économie et à s'intégrer davantage dans le commerce mondial.
Et au niveau national, quelles sont les mesures prises par le gouvernement marocain pour soutenir l'économie? On entend beaucoup parler des PME qui sont souvent considérées comme le moteur de la croissance.
Les PME sont en effet l'épine dorsale de l'économie marocaine. Le gouvernement a récemment annoncé un décret pour les soutenir avec des mesures comme l'accès accru au marché public. L'objectif est de donner aux PME plus de chances de décrocher des contrats avec l'État, ce qui peut leur donner un vrai coup de pouce.
C'est une bonne nouvelle pour les PME qui ont souvent du mal à se faire une place face aux grandes entreprises. Y a-t-il d'autres initiatives pour les aider à se développer?
Oui, il existe des programmes de financement comme Tamwilcom et le fonds Mohamed Soft pour l'investissement. Ces programmes injectent des ressources financières cruciales pour les entreprises émergentes en leur accordant des prêts ou en prenant des participations dans leur capital.
Tout cela semble prometteur, mais est-ce suffisant pour relever les défis auxquels sont confrontées les PME marocaines? On sait qu'elles rencontrent de nombreux obstacles, comme l'accès au financement, la complexité des procédures administratives ou encore le manque de main-d'œuvre qualifiée.
Certains observateurs s'inquiètent que les fonds alloués aux PME soient absorbés sans réel impact sur le terrain.
Oui.
Il y a un risque que ces aides soient mal utilisées ou qu'elles ne profitent qu'à une petite élite d'entrepreneurs.
Il faut donc rester vigilant et s'assurer que ces mesures se traduisent par des résultats concrets. On ne peut pas se contenter d'annoncer des milliards d'investissements. Il faut que ça se traduise par de la création d'emplois, de la croissance et du développement.
Exactement. Il faut aussi s'attaquer aux problèmes de fonds qui freinent le développement des PME.
Oui.
Par exemple, il faut simplifier les démarches administratives, améliorer la formation professionnelle et faciliter l'accès aux marchés internationaux.
Et il y a aussi la question du secteur informel, qui représente une part importante de l'économie marocaine. Le gouvernement a annoncé des mesures pour encourager la transition vers le formel, notamment en proposant un accompagnement fiscal, Mais est-ce que ça va suffire à convaincre les entrepreneurs de franchir le pas?
C'est la grande question. Pour l'instant, on manque de recul pour évaluer l'efficacité de ces mesures. Il faut du temps pour changer les mentalités et les habitudes, mais le gouvernement semble déterminé à s'attaquer à ce problème, qui est un frein majeur au développement économique du pays.
On voit que le Maroc est à la croisée des chemins, confronté à des enjeux économiques importants. Il doit trouver le juste équilibre entre soutien aux PME, attractivité pour les investissements étrangers et transition vers une économie plus verte et durable.
C'est un défi de taille, mais le Maroc a des atouts importants pour le relever. Il a une population jeune et dynamique, une position géographique stratégique et une volonté de se moderniser.
Et n'oublions pas que le Maroc est un pays stable politiquement, ce qui est un atout majeur dans un monde de plus en plus incertain.
Tout à fait. La stabilité politique du Maroc est un gage de confiance pour les investisseurs étrangers et un facteur important de son attractivité économique.
Bon, on a déjà couvert beaucoup de terrain aujourd'hui. Des politiques protectionnistes de Trump aux ambitions du Maroc en Afrique, en passant par la folie du Bitcoin et les défis des PME, on a vraiment exploré les grandes tendances de l'économie mondiale. Mais ce n'est que le début de notre exploration. Restez avec nous, on revient tout de suite pour la suite de notre deep dive.
Et nous revoilà pour la suite de notre exploration économique. On va continuer à parler du Maroc.
Oui.
Mais cette fois, on va se concentrer sur les initiatives locales.
D'accord.
Notamment les efforts du gouvernement pour soutenir les PME.
Ah oui, les PME, ces petites et moyennes entreprises qui sont souvent présentées comme le moteur de la croissance économique.
Oui.
Mais concrètement, quel est leur rôle au Maroc et pourquoi sont-elles si importantes ça? Au Maroc, les PME représentent plus de 90% des entreprises et emploient plus de la moitié de la population active.
Ah oui.
Elles jouent un rôle crucial dans la création de richesses. L'innovation et la dynamisation du tissu économique, c'est simple. Sans les PME, l'économie marocaine serait à l'arrêt.
On comprend mieux pourquoi le gouvernement met autant l'accent sur leur développement, mais on sait aussi que les PME rencontrent beaucoup de difficultés, notamment en matière d'accès au financement. C'est un problème assez universel d'ailleurs.
Tout à fait, obtenir un prêt bancaire peut être un véritable parcours du combattant pour une PME.
Oui.
Surtout si elle est jeune et qu'elle manque de garantie.
Heureusement, le Maroc a mis en place des initiatives pour faciliter l'accès au crédit.
Tu peux nous donner quelques exemples concrets? J'imagine que ça intéresse beaucoup de nos auditeurs qui sont entrepreneurs ou qui envisagent de se lancer.
Prenons l'exemple de Tamulcom.
Oui.
Une société de garantie et de financement qui accompagne les entrepreneurs. En gros, Tamulcom se porte garante des prêts accordés aux PME.
D'accord.
Ce qui rassure les banques et leur permet de prendre moins de risques.
Donc Tamulcom agit comme un intermédiaire, un facilitateur entre les PME et les banques, c'est une sorte d'ange gardien pour les entrepreneurs qui ont du mal à convaincre les banquiers.
Exactement. Et puis, il y a le fonds Mohamed Sik pour l'investissement qui a un rôle plus direct.
Oui.
Ce fonds investit dans des projets prometteurs portés par des PME en leur apportant des capitaux frais et un accompagnement sur mesure.
On voit que le Maroc ne manque pas d'initiatives pour soutenir ces PME. Mais la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que ces mesures ont un réel impact sur le terrain? Est-ce qu'elles permettent vraiment aux PME de se développer et de créer des emplois?
C'est une question légitime et il n'y a pas de réponse simple. Il y a des critiques qui disent que ces efforts restent insuffisants, que les procédures sont trop complexes, que les aides sont mal ciblées.
Oui, on entend souvent dire que la bureaucratie est un frein au développement des entreprises au Maroc comme ailleurs.
C'est vrai. Et il faut aussi souligner que la concurrence est rude au Maroc comme à l'international.
Oui.
Les PME marocaines doivent se battre pour se faire une place sur le marché et elles n'ont pas toujours les moyens de rivaliser avec les grandes entreprises.
Donc même avec le soutien du gouvernement, la réussite n'est pas garantie. C'est important de le rappeler, car on a parfois tendance à idéaliser l'entrepreneuriat.
Tout à fait, créer et développer une entreprise, c'est un challenge permanent qui demande beaucoup de travail, de persévérance et d'adaptation. Et ce n'est pas réservé à une élite. Tout le monde peut se lancer à condition d'avoir la bonne idée, le bon produit et la bonne stratégie.
Et pour que les PME marocaines puissent s'épanouir et contribuer pleinement à la croissance économique du pays, il faut une vision globale, une stratégie cohérente, n'est-ce pas?
Absolument. Le soutien aux PME ne doit pas se limiter à des aides financières ponctuelles.
Non.
Il faut créer un environnement favorable à leur développement en simplifiant la réglementation, en encourageant l'innovation et en favorisant l'accès aux marchés internationaux.
On a beaucoup parlé d'économie, mais il est temps de s'intéresser à un autre sujet crucial, l'environnement.
Oui.
Le Maroc s'engage de plus en plus dans la lutte contre le changement climatique. Et c'est une excellente nouvelle. On a déjà évoqué le marché du carbone.
Oui, oui.
Mais il y a d'autres initiatives intéressantes à mentionner, n'est-ce pas?
Oui, le Maroc est un pays pionnier en Afrique en matière d'énergie renouvelable. Il a mis en place des projets ambitieux comme le complexe solaire Nur-Ouarzazate, qui est l'un des plus grands au monde.
C'est vrai que quand on pense au Maroc, on imagine souvent ces paysages désertiques baignés de soleil. C'est un pays qui a un potentiel énorme en matière d'énergie solaire.
Tout à fait. Et le Maroc ne se limite pas au solaire. Il explore également d'autres sources d'énergie propre comme l'éolien, qui est en plein essor sur la côte atlantique. Des parcs éoliens géants sont en construction et le pays ambitionne de devenir un leader mondial dans ce domaine.
C'est une ambition louable, mais est-ce que c'est réaliste? On sait que le développement des énergies renouvelables demande des investissements importants et que les technologies évoluent rapidement.
Le Maroc a déjà fait des progrès considérables et il a la volonté politique de poursuivre sur cette voie.
Bien sûr, il y a des défis à relever comme le stockage de l'énergie, l'intégration des énergies renouvelables dans le réseau électrique et la formation de la main-d'œuvre. Mais le Maroc a les ressources naturelles, l'expertise et la détermination pour réussir sa transition énergétique.
Et cette transition énergétique, elle est bénéfique à la fois pour l'environnement et pour l'économie, n'est-ce pas?
Absolument. Le développement des énergies renouvelables permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de lutter contre le changement climatique et de préserver la planète pour les générations futures. Mais c'est aussi une opportunité économique, car cela permet de créer des emplois, de réduire la dépendance aux importations d'énergies fossiles et de stimuler l'innovation technologique.
C'est une situation gagnant-gagnant, comme on dit, le Maroc montre l'exemple en prouvant qu'on peut concilier croissance économique et protection de l'environnement. Et ne se contente pas de développer les énergies renouvelables. Il prend aussi des mesures dans d'autres domaines comme la gestion de l'eau, la protection des forêts et la promotion de l'agriculture biologique.
Oui, le Maroc a une vision globale, une approche intégrée de la question environnementale.
D'accord.
Il a compris que la protection de l'environnement n'est pas un luxe mais une nécessité vitale et qu'elle peut être un levier de développement économique et social.
On voit que le Maroc s'engage résolument sur la voie du développement durable. Et cet engagement est reconnu par la communauté internationale. Le Maroc a accueilli la COP22 en 2016. Il continue de jouer un rôle important dans les négociations climatiques.
Tout à fait. Le Maroc est un leader en matière de lutte contre le changement climatique en Afrique. Et il inspire d'autres pays à suivre son exemple.
Parlons maintenant d'un autre sujet important, l'éducation. On sait que le Maroc a engagé des réformes ambitieuses pour améliorer son système éducatif.
L'éducation est une priorité nationale au Maroc. Le gouvernement investit massivement dans la construction d'écoles, la formation des enseignants et la modernisation des programmes scolaires. L'objectif est d'améliorer la qualité de l'enseignement et de garantir l'égalité des chances pour tous les enfants marocains.
C'est un objectif louable, mais est-ce que ces réformes portent leurs fruits? On entend souvent des critiques sur le système éducatif marocain qui serait trop théorique, pas assez adapté aux besoins du marché du travail.
Il y a effectivement des défis à relever. Le système éducatif marocain doit s'adapter aux mutations économiques et sociales. En mettant l'accent sur le développement des compétences techniques et professionnelles, la maîtrise des langues étrangères et la culture de l'entrepreneuriat.
C'est vrai que dans le monde aujourd'hui, il ne suffit plus d'avoir un diplôme. Il faut aussi avoir des compétences concrètes, savoir s'adapter, être créatif.
Tout à fait. Le Maroc a compris qu'il doit investir dans le capital humain pour réussir sa transformation économique et sociale. L'éducation est la clé de l'avenir et le gouvernement marocain semble déterminé à donner à tous les enfants les moyens de réussir.
On a parlé de l'économie, de l'environnement et de l'éducation. On voit que le Maroc est un pays en mouvement qui se modernise rapidement, mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, n'est-ce pas?
Oui, le Maroc est à la croisée des chemins.
Il doit faire face à des défis importants comme la réduction des inégalités sociales, la lutte contre le chômage et la consolidation de la démocratie, mais il a aussi de nombreux atouts pour réussir sa transformation.
Sa position géographique stratégique, sa stabilité politique, sa jeunesse dynamique, son ouverture sur le monde, le Maroc, a tout pour devenir un modèle de développement pour l'Afrique et pour le monde arabe.
Tout à fait. Le Maroc est un pays plein de promesses et il est passionnant de suivre son évolution.
On arrive à la fin de cette deuxième partie de notre exploration. On a couvert beaucoup de terrain, mais il nous reste encore des sujets passionnants à aborder.
Alors restez avec nous, on revient tout de suite pour la troisième et dernière partie de notre deep dive dans l'économie marocaine.
De retour pour notre dernière partie, on va se pencher sur le commerce international.
Ah oui, un moteur de la croissance, et le Maroc a une position stratégique vraiment enviable.
On a souvent parlé de la position géographique du Maroc entre l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. Mais concrètement, ça donne quoi en termes d'opportunités commerciales?
Un accès direct à plus d'un milliard de consommateurs potentiels.
Ah oui, quand même.
C'est ce que permet la situation du Maroc. Et pour en profiter au maximum, le Maroc a signé de nombreux accords de libre-échange ces dernières années.
Ces fameux accords de libre-échange, on en entend beaucoup parler, mais je ne suis pas sûr de bien comprendre comment ça marche. Tu peux nous éclairer?
En gros, un accord de libre-échange, c'est un traité entre deux pays ou groupes de pays qui visent à supprimer ou réduire les barrières commerciales, comme les droits de douane ou les quotas d'importation. Ça permet aux entreprises de chaque pays d'exporter plus facilement leurs produits vers les marchés partenaires.
Donc pour le Maroc, ça signifie qu'il peut exporter plus facilement ses produits vers l'Europe, les États-Unis, les pays arabes, etc.
Exactement. Le Maroc a un réseau commercial dense qui lui permet de diversifier ses exportations et de toucher des marchés variés.
Et justement, en parlant d'exportation, quels sont les produits phares du Maroc sur la scène internationale?
Le Maroc est un grand exportateur de produits agricoles, notamment les agrumes, les tomates, les olives, les dattes. Grâce à son climat et son savoir-faire, le Maroc produit des fruits et légumes de qualité qui sont très appréciés.
On a l'eau à la bouche, rien qu'en t'écoutant. Et au-delà des produits agricoles, y a-t-il d'autres secteurs qui se distinguent à l'exportation paix?
Le Maroc est aussi un acteur important dans l'industrie textile, avec la production de vêtements, de tissus, de tapis, et puis bien sûr, il ne faut pas oublier le tourisme.
Ah oui, le tourisme?
Un secteur clé de l'économie marocaine.
Le Maroc est une destination très prisée avec ses plages, ses villes impériales et ses paysages variés.
Tout à fait. Le tourisme génère des revenus importants pour le Maroc et crée de nombreux emplois.
Mais le Maroc ne se contente pas d'exporter des produits traditionnels. Il cherche aussi à se positionner sur des secteurs plus innovants, n'est-ce pas?
Absolument. Le Maroc a compris qu'il devait diversifier son économie et monter en gamme pour rester compétitif. C'est pour ça qu'il investit dans des secteurs à forte valeur ajoutée comme l'automobile, l'aéronautique, l'électronique, les énergies renouvelables.
C'est ambitieux, mais est-ce que ça marche? Est-ce que le Maroc arrive à attirer les entreprises étrangères dans ces nouveaux secteurs?
Oui, les efforts du Maroc commencent à payer. On voit de plus en plus d'entreprises internationales s'installer au Maroc, attirées par la stabilité politique, l'infrastructure et la main-d'œuvre qualifiée.
C'est une bonne nouvelle pour l'économie marocaine. Ces investissements créent des emplois, apportent des savoir-faire et contribuent à la modernisation.
Tout à fait, le Maroc devient un hub industriel et technologique en Afrique. Et il a le potentiel pour jouer un rôle important dans l'économie mondiale.
On voit que le Maroc a une vision claire.
Il veut s'affirmer comme un leader économique en Afrique et dans le monde arabe en s'appuyant sur sa position, sa stabilité et sa volonté de moderniser son économie.
Et il a les cartes en main pour réussir. Le Maroc est un pays dynamique, plein de talent et d'énergie. C'est passionnant de suivre son évolution.
Voilà qui conclut notre deep dive sur l'économie marocaine, mais zéro ré. On a exploré les défis, les opportunités, les initiatives locales et la place du Maroc dans le commerce international. J'espère que cette plongée vous a permis de mieux comprendre ce pays fascinant et en pleine mutation.
Moi aussi, j'ai beaucoup apprécié partager mes connaissances. Le Maroc me passionne et j'espère que ça vous a donné envie d'en savoir plus.
Alors, n'hésitez pas à continuer à vous informer, à lire, à regarder, à voyager le monde et plein de choses à découvrir. Et la connaissance est un trésor précieux.
Tout à fait. Restez curieux, restez ouverts et n'oubliez jamais que l'apprentissage est un voyage qui dure toute la vie.
Merci à tous et à bientôt pour une nouvelle exploration.